Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Infatigable historien de l'Algérie où vous êtes né et sur laquelle vous avez commencé à travailler il y a 40 ans, vous le rappelez dans ce livre. Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika. Ce livre paraît chez Bayard. Ça fera un an, dans quelques jours, le 22 février précisément, qu'un mouvement populaire a entraîné la chute du président Bouteflika en avril dernier. Vous écrivez que c'est le plus grand bouleversement depuis que vous avez quitté le sol algérien en 1962. En quoi ce mouvement populaire et ses conséquences est plus important que d'autres dates historiques comme le printemps berbère en 80 ou plus tard la naissance du pluralisme politique en Algérie en octobre 88?
D'abord parce qu'il y a des foules considérables qui sont descendues dans la rue, comme pour l'indépendance de l'été 1962. C'est d'abord donc les manifestations populaires massives qui marquent cette sorte de continuité presque physique entre ces deux séquences historiques majeures de l'histoire de l'Algérie contemporaine, c'est-à-dire entre l'été 1962 et ce qui s'est passé au printemps de l'année dernière, enfin de cette année. Et puis, d'autre part, l'événement politique, c'est qu'à ma connaissance, bien sûr, c'est la première fois qu'un président en exercice quitte le pouvoir sous la pression populaire. Il y avait eu des départs, entre guillemets, de présidents en exercice. On se souvient bien sûr du coup d'État contre Ben Bella en 1965. Et puis aussi, bien sûr, malheureusement, l'assassinat de Mohamed Boudiaf en 1992, qui ont été des présidents qui ont quitté le pouvoir dans des conditions très difficiles, très dures, tragiques même. Là, c'est la première fois. Lyamin Zeron avait quitté le pouvoir, mais de manière volontaire, de manière, j'allais presque dire, régulière. Là, c'est la première fois, au bout de 20 ans d'exercice, qu'un président quitte le pouvoir sous la pression de la rue. C'est quand même un événement politique considérable.
Un mot sur ce mouvement Hirak, je ne sais pas comment on le prononce exactement, H-I-R-A-K, ce mouvement populaire qui est né il y a un an, donc, et qui arrachait les portraits du président Bouteflika. Comment est né ce mouvement populaire?
Bah, vous savez, bon, il est né de manière assez spontanée quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr les réseaux sociaux, mais il faut dire quand même que avant ce mouvement, qui a commencé à Kharata aussi dans l'Est algérien, il y avait toute une série de manifestations qu'on ne voyait pas à l'œil nu, en particulier des mouvements sociaux, extrêmement importants en Algérie, l'année qui a précédé, disons, cette fameuse année 2019. Notamment dans l'éducation nationale, dans l'enseignement, dans le secteur hospitalier, il y avait eu énormément de grèves, d'opposition, dans la jeunesse scolarisée aussi, il y avait énormément d'opposition en Algérie.
Mais et puis ces grandes marches après, tous les vendredis, inexorablement.
Oui, alors il n'y avait pas cette espèce de convergence, il y avait un éparpillement de toutes ces luttes sociales. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il y a eu l'annonce du cinquième mandat, alors là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y avait le sentiment d'humiliation qui était très fort, qui existait déjà dans la société algérienne au moment du quatrième mandat. Et déjà, disons que dans la société algérienne, il y avait beaucoup de gens qui, disons, n'étaient pas d'accord avec le quatrième mandat. Donc bref, toutes les conditions étaient réunies pour une sorte d'explosion, de manifestation populaire très massive, notamment les vendredis.
Avec des slogans et des mots d'ordre entendus durant ces grandes marches dans les villes algériennes, en quoi ces mots d'ordre se sont-ils inscrits dans l'histoire de l'Algérie et de ses mouvements ?
Ben, ils s'inscrivent dans l'histoire d'abord par la réappropriation d'un certain nombre de grandes figures algériennes qui avaient été mises à l'écart ou mises au secret, je pense en particulier par exemple...
Les visages oubliés de l'Algérie. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des personnages importants comme Ferhat Abbas, par exemple, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « L'indépendance confisquée » et il se trouve que le titre de cet ouvrage était en quelque sorte prémonitoire, puisque c'est très exactement ce que disaient les manifestants, c'est-à-dire ce refus d'une confiscation d'une indépendance de 1962. D'autres, comme Messali Hadj, avaient préconisé l'Assemblée constituante algérienne lorsque avait été créé le mouvement nationaliste avec dans les années 20, dans les années 30, donc la réappropriation de ces mots d'ordre. Et puis le portrait aussi de Larbi Ben Mehdi qui a été brandi dans ces manifestations. Et aussi la séparation du politique et du militaire qui a été une des grandes revendications, en particulier mise par un congrès en 1956, le congrès de la Soumam. Et cette revendication est revenue, cette revendication à caractère historique est revenue, disons, portée par les manifestants, par les jeunes manifestants, c'est cette volonté, disons, de séparer le politique et le militaire.
Et tout cela, finalement, démontre aujourd'hui la pluralité du nationalisme algérien qui ne se résume pas au seul FLN, comme a voulu le faire croire la version officielle.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, à travers toutes ces manifestations, la volonté de se réapproprier une histoire, peut-être de l'avant 54, c'est-à-dire d'une volonté de voir et d'être dans une histoire plurielle, dans une histoire qui ne soit pas avec et à partir d'un récit unique et homogène, avec des mots d'ordre aussi simples qu'un seul héros, le peuple, après 62, mais au contraire, de restituer le rôle des personnages, des acteurs et de la pluralité. Cette question de la pluralité est essentielle parce qu'elle conduit à voir, à dessiner le paysage d'une société démocratique. Et c'est la volonté qui avait été exprimée déjà de nombreuses reprises auparavant, notamment le printemps berbère de 1980, les événements entre guillemets tragiques d'octobre 1988 aussi, bien sûr, où à chaque fois s'exprimait cette nécessité de la pluralité politique et démocratique.
Et est-ce que ce mouvement populaire, le Irak, serait d'inspiration camusienne dans sa vision non violente de la révolte?
Ça, je sais pas s'il y a des prolongements, disons. Il y a toujours des histoires souterraines de réappropriation qui ne soient pas visibles dans l'espace public. Mais ce qui est, à mon sens, le plus important, peut-être, c'est que ce refus de la violence, c'est parce que l'Algérie et les Algériens avaient traversé une période extraordinairement cruelle et violente dans les années 90, avec plus de 100 000 morts, bien sûr, on s'en souvient tous. Et les Algériens ne voulaient pas la répétition, la réédition, disons, de cette tragédie, de cette décennie sanglante absolument terrible. Avec le terrorisme, bien sûr, l'Algérie avait payé un très lourd tribut dans cette période. Et lorsque a existé, a émergé la revendication démocratique qu'on vient d'évoquer, eh bien, il y avait surtout cette volonté que ça ne sombre pas dans la violence et que, naturellement, le pacifisme politique l'emporte. Et cette question du pacifisme en politique est extrêmement importante parce que c'est aussi un apprentissage démocratique. C'était respecter la parole de l'autre, respecter les idées de l'autre et commencer, disons, cette sorte d'apprentissage démocratique dans la discussion pacifiée. C'est très difficile à obtenir, hein, évidemment.
Ce mouvement populaire qui s'est mis en marche il y a un an environ, c'est aussi un mouvement d'émancipation des femmes.
Oui, alors on a pu voir beaucoup, disons, la présence des femmes, des jeunes femmes, notamment algériennes, dans les premières grandes manifestations, parce que en partie, c'était des manifestations à l'origine, hein, je parle du mois de mars, du mois d'avril, du mois de mai, etc., de la jeunesse scolarisée, c'est-à-dire des étudiants qui ont manifesté pas simplement le vendredi d'ailleurs, mais aussi le mardi, et la présence dans les cortèges de nombreuses femmes signifiait aussi la remise en question, disons, de cet entre guillemets machisme qui existe dans la société algérienne et cette volonté d'exister comme des actrices à part entière. C'est pas facile, hein, c'est pas un combat gagné d'avance, c'est un combat qui se mène en permanence dans la société algérienne et dans d'autres sociétés, bien sûr, du Maghreb.
Benjamin Storin, invité ce matin donc de France Inter pour votre dernier livre Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika. Qu'est-ce qui justifie, Benjamin Storin, le mot révolution que vous utilisez dans ce livre pour qualifier ces grandes marches qui ont donc conduit au départ du président Bouteflika en avril dernier?
Parce que c'est une rupture, c'est un seuil qui a été franchi, parce qu'il y a le mur de la peur qui est tombé, parce que plus rien ne sera comme avant. C'est ça qui est fondamental. Et puis aussi, parce que l'Algérie, dans son histoire, s'inscrit dans une tradition du refus et dans une tradition de culture révolutionnaire. C'est évident. Et donc, il y a, par conséquent, dans cette volonté de se réapproprier cette histoire et d'avancer vers la démocratie, une radicalité, une volonté de rupture avec le système qui existe et qui est porté notamment par les jeunes générations.
Se réapproprier l'histoire, est-ce que la guerre d'indépendance en Algérie contre la France, est-ce que c'est un marqueur identitaire qui résonne encore dans la jeunesse algérienne?
Oui et non. Oui, parce que évidemment cette guerre a été terrible, cette guerre d'indépendance, et elle a signifié l'émergence de l'État-nation en Algérie. Donc évidemment elle est appréhendée, elle est perçue comme un moment rupture, un moment décisif, un seuil aussi de franchi sur la conquête de la souveraineté, du souverainisme politique. C'est très important, donc du nationalisme, bien entendu, qui est lié à l'histoire de cette guerre et de cette révolution particulière. Donc il y a par conséquent vécu comme un marqueur.
Mais en même temps,
il y a aussi le fait que beaucoup veulent s'émanciper d'une histoire extrêmement pesante, reconstruite, falsifiée, mythologisée, et qui a pesé comme une sorte de facteur de légitimation du pouvoir politique en place. Donc il y a à la fois cette fierté politique de s'inscrire dans une histoire très particulière, révolutionnaire, mais en même temps aussi donc cette volonté de s'émanciper d'une histoire extraordinairement pesante, qui a été utilisée comme une sorte d'outil politique, qui n'était pas véritablement d'ailleurs des récits historiques. De sorte que pour beaucoup d'Algériens, il est temps de passer à l'écriture d'une histoire réelle de l'Algérie contemporaine.
Et quand Emmanuel Macron, en France, veut faire de la guerre d'Algérie un défi mémoriel de son quinquennat, est-ce qu'il a beaucoup de coups à prendre dans cette histoire ?
Ah oui, parce que la guerre d'Algérie en France reste. La guerre d'Algérie, c'est le mot utilisé en France. Vous savez, on dit en Algérie la guerre d'indépendance. En France, c'est la guerre d'Algérie. Bien sûr qu'il a beaucoup de coups à prendre. Il faut beaucoup de courage pour affronter cette période parce que la guerre d'Algérie a été une période en France extraordinairement complexe, tragique, difficile et qui continue de hanter de très nombreux groupes porteurs de cette mémoire blessée. En particulier les Européens d'Algérie, ceux qu'on va appeler les Pieds Noirs, qui ont le sentiment d'avoir été trahis, abandonnés et d'avoir quitté leur terre natale, bien sûr les Harkis, on le sait, les supplétifs musulmans de l'armée française, mais aussi, bien sûr aussi, d'autres groupes porteurs de cette mémoire, notamment le plus important de ces groupes, les appelés d'Algérie. Les soldats, tous ces hommes nés entre 1932 et 1943, donc c'est une masse d'hommes considérables,
mais qui, et qui veut dit, se faire entendre.
Bien sûr, et qui portent aussi cette mémoire de leur adolescence, qui a été extraordinairement importante, une période très difficile pour eux. 1,5 million d'hommes. C'est considérable. Et puis les immigrés, bien sûr, algériens en France.
Et dans ce défi mémoriel que souhaite faire le président Macron, qu'est-ce que la France peut faire de plus ?
Eh ben déjà, continuer un certain nombre de gestes qui ont été accomplis, parce que des gestes ont déjà été faits par la France, par les différents présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui avait par exemple remis aux autorités algériennes à l'époque la carte des mines posées aux frontières, ce qu'a fait François Hollande, le discours qu'il a fait en décembre 2012, bien sûr. Emmanuel Macron, on le sait, avait accompli ce geste sur la question de Maurice Audin, ça c'était extrêmement important. Alors, je crois qu'il faut continuer, disons, à donner, à envoyer un certain nombre de signaux, mais qui doivent s'accompagner aussi par une sorte de pédagogie qui regroupe l'ensemble des acteurs. Parce qu'il faut décloisonner les mémoires, qu'on mette tout sur la table, qu'on puisse discuter de toutes les questions mémorielles aujourd'hui en France, et non pas essayer de s'enfermer dans chacune de ces mémoires qui viennent à s'affronter les unes contre les autres, dans cette sorte de guerre de mémoire interminable.
On a reproché il y a quelques jours à Emmanuel Macron d'avoir fait un rapprochement entre la Shoah et la guerre d'Algérie. Il évoquait ce délicat exercice d'un chef d'État quand il doit assumer des, ou présider des séquences mémorielles. Un peu comme la Shoah de Jacques Chirac en 95, a-t-il dit, dans l'avion qui le ramenait de Jérusalem. Et depuis cette sortie, l'Élysée d'ailleurs a récusé toute comparaison entre les deux faits historiques. Était-ce effectivement à vos yeux une maladresse ou une fausse polémique ou quelque chose de plus sérieux ?
Écoutez, franchement, sur ce point, je pense qu'on fait un mauvais procès au président de la République. Il n'a jamais voulu comparer la Shoah avec la guerre d'Algérie. Il a simplement signifié qu'il y avait des séquences d'histoire très particulières, très singulières et spécifiques, qu'il fallait bien sûr les identifier de manière, j'allais dire, dans leur unicité, dans leur particularité, et puis les traiter les unes après les autres. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il visait le comparatisme historique. C'est absurde. Il suffit de regarder ce qu'il a dit, ce qui a été écrit, pour voir que c'est un mauvais procès, effectivement. Je crois, par contre, qu'il faut regarder en face cette histoire. Ça, il a eu, disons, cette volonté là exprimé depuis très longtemps, et je crois qu'il faut poursuivre, disons, dans cette voie. Ceux qui montent aujourd'hui ce type de faux procès, dans le fond, ne veulent pas regarder cette histoire en face. Alors qu'il y a, dans les jeunes générations, aujourd'hui, notamment dans ce qu'on a appelé, entre guillemets, les immigrations postcoloniales, une très grande volonté de comprendre et de se situer dans cette histoire. Si on ne répond pas, alors ce sont les récits fantasmés, alors ce sont les récits mythologisés, les récits identitaires qui l'emporteront et qui font beaucoup de mal à la société française.
Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, votre dernier livre, Benjamin Stora, qui sort chez Bayard. Et en tant qu'historien, d'ailleurs, c'est, je crois, la première fois que vous n'attendez pas la fin de l'histoire pour apporter un premier livre et commenter et analyser cette révolution en marche en Algérie. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin de la séquence ?
Ça, c'est une très bonne question, évidemment, une question embarrassante aussi, bien sûr. C'est vrai que c'est la première fois que j'écris une histoire dont on ne connaît pas l'issue. Parce que c'est un récit qui a été écrit avant, d'ailleurs, la mort du général Gaït Salah, qui a joué un rôle très très important dans cette histoire. Donc c'était écrit avant.
Qui était l'ancien chef militaire, mais qui est mort et qui avait décédé, toujours une influence.
Et qui avait une très très grande influence, bien sûr. Et qui
sur l'armée.
Donc ce récit a été écrit avant, donc à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Mais parce qu'il était pour moi indispensable parce que je travaille depuis très très longtemps sur cette histoire, vous l'avez dit, depuis plus de 40 ans maintenant, de voir un mouvement aussi important se réapproprier des questions historiques alors et rester sur le bas-côté de la route comme un simple spectateur. Pour moi, c'était quasiment impensable, impossible, parce que je voyais des masses considérables de gens en manifestation et qui cherchaient à comprendre cette histoire et à se la réapproprier. Comment un historien, à partir de là, qui travaille depuis très longtemps sur cette histoire, peut ne pas se sentir concerné? C'est pas possible. Il faut, à un moment donné, aussi comme historien, s'investir dans un mouvement au moment où il est en train de s'écrire, avec des risques. Parce que c'est prendre des risques que d'écrire à chaud une histoire immédiate, prendre des risques parce qu'on n'a pas effectivement en main l'ensemble des archives, notamment étatiques, qui dévoileront un jour les dessous de cette histoire. Mais pour l'instant, on n'en a pas possession, bien sûr.
Le nouveau président élu il y a un mois et demi, Abdelmadjid Tebboune, a-t-il vraiment les mains libres pour satisfaire les revendications du Hirak, et le souhaite-t-il d'ailleurs vraiment?
Ça, c'est trop tôt, à mon sens, pour se livrer au petit jeu des pronostics. Vous savez, moi, je suis historien, je suis pas futurologue, donc je peux pas dire exactement ce qui peut se passer.
Mais vous connaissez bien les arcanes du pouvoir algérien, c'est pour ça que je pose la question.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même des gestes, hein, c'est une évidence, des gestes qui ont été faits, qui ont notamment la libération d'un certain nombre de personnes qui avaient été arrêtées pendant les manifestations parce qu'elles avaient brandi l'emblème Amazir, donc elles qui ont été libérées. Il y a eu le fait de recevoir les représentants de la presse, des médias, ce qui n'avait jamais été fait.
Il l'a fait il y a quelques jours seulement.
Il y a quelques jours, bien sûr, les représentants de partis politiques, pardon. Il y a par conséquent toute une série, disons, de gestes. Mais le fait est, c'est que ce sont des gestes que le président décide par le haut et qui disons, ne satisfont pas ceux qui constituent, disons, ce mouvement, qui voudraient pouvoir désigner eux-mêmes leurs propres représentants pour pouvoir éventuellement pouvoir discuter sur la question d'une transition politique. De sorte que tous ces gestes sont appréhendés comme des gestes venant d'en haut et non pas venant de l'intérieur, disons, de cette société en mouvement.
Ma question signifiait que le président Tebboune est tout de même issu du Sérail, et la question était de savoir s'il était toujours dépendant de ce qu'il reste de l'ancien régime Bouteflika.
C'est très difficile. Moi, j'ai parlé, bien sûr, dans cet ouvrage de révolution, de rupture, de volonté de rompre avec le système, mais la politique dite, entre guillemets, de la table rase en histoire, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Vous savez, dans tous les processus, les révolutionnaires, y compris les plus radicaux, je vais pas ici reprendre l'exemple de la Révolution française et d'autres révolutions, on a toujours vu un personnel politique, des intellectuels, etc., appartenir à ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'ancien régime, et qui participent de la fabrication et de la construction d'une nouvelle société, de nouvelles règles de conduite d'un état de droit. Et c'est cela, dans le fond, ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans une période difficile, compliquée, où le mouvement populaire continue en Algérie de manière extrêmement forte.
Comment continue-t-il de se faire entendre, ce mouvement Hirak populaire?
Par les manifestations de rue, dont on parle peu ici en France, parce que effectivement, je pense qu'en France, on a un regard très lointain, hein, par rapport à la société algérienne, qu'on considère toujours comme une société très immobile, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que c'est une société qui a été sans cesse en mouvement, sans cesse en transformation, sans cesse en revendication. J'ai essayé très rapidement de le dire à travers les mouvements sociaux, notamment, qui ont été très importants en Algérie dans les années 2013, 2014, etc. Et on a par conséquent ce regard d'immobilité qui ne correspond pas à la volonté...
Qui n'est pas la réalité, disons, sur le terrain.
Qui ne correspond pas à cette volonté-là, parce que il ne faut pas oublier non plus que la France et l'Algérie, c'est aussi une diaspora algérienne extrêmement puissante. Il y a plusieurs millions de personnes qui vivent sur le territoire français et qui sont très attentifs à cette situation.
Un dernier mot, Benjamin Stora, sur le rôle de l'armée, car c'est elle aussi qui a précipité le départ du président Bouteflika. Quel rôle joue l'armée aujourd'hui?
Vous savez, l'armée, on en parle beaucoup du point de vue du fonctionnement intérieur de l'appareil d'État, mais l'armée en Algérie, c'est aussi les frontières dont on ne parle pas.
On n'est pas loin du Sahel, le Niger, le Mali.
Le Mali, le Niger, la Libye, qui a la plus grande frontière avec l'Algérie, et l'armée algérienne, c'est aussi cela. C'est-à-dire, c'est aussi, disons, un corps constitué à l'intérieur de la société algérienne qui pourrait, sur la base, disons, d'une protection des frontières, jouer la carte de l'unité nationale.
Eh bien, on lira tout cela avec un grand intérêt dans votre dernier livre, Benjamin Stora, Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, un livre qui commente la révolution en marche, et ça paraît chez Bayard.
Merci
beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter, Benjamin Stora.